Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. La pauvreté dans le monde recule, la démocratie avance, la couche d'ozone se reconstitue, ou encore le monde n'a jamais connu aussi peu de violence. Ce matin, nous recevons un rameur à contre-courant de certaines idées reçues, le spécialiste en psychologie positive, Jacques Lecomte, nous donne à voir ce matin une humanité en progrès. En s'appuyant sur une série de chiffres, de statistiques et de rapports internationaux fiables, Jacques Lecomte nous invite à regarder notre monde avec un optimisme réaliste. Il appelle ça l'opti-réalisme, loin des discours catastrophistes des prophètes de malheur. Des discours qui, nous le verrons, peuvent mener à l'immobilisme, voire à la soumission. Questions, réactions par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard Inter 01 45 24 7000. Colline et Eliès attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Ça ne saute pas toujours aux yeux, mais ce monde qu'on voit ici, eh bien, il s'améliore. Exemple, premier exemple, l'espérance de vie. Eh bien, dans les pays pauvres, depuis 1990, l'espérance de vie a gagné 9 ans. C'est énorme. La raison, évidemment, eh bien, ce sont les progrès médicaux, mais aussi les soins apportés aux jeunes enfants. En 1990, un quart de la population mondiale souffrait de la faim, 12% seulement. Aujourd'hui, c'est toujours trop. Évidemment, mais c'est moitié moins, rendez-vous compte. Autre exemple, depuis les années 70, la démocratie s'est répandue partout dans le monde, avec la chute du mur, la fin des dictatures en Amérique du Sud, et puis plus récemment, par exemple, les élections libres en Tunisie. Donc, quand on regarde l'humanité aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, il y a de vraies raisons d'espérer.
Un extrait du JT de France 2 du 1er janvier 2015. Bonjour Jacques Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes président d'honneur de l'Association française de psychologie positive. Docteur en psychologie, vous avez notamment enseigné les sciences de l'éducation à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et vous publiez aux arènes « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». En deux mots, Jacques Lecomte, rappelez-nous ce qu'est la psychologie positive qui n'a rien à voir avec le développement personnel nunuche.
C'est-à-dire la psychologie positive, ça part d'abord d'un constat. Qui est fait par des psychologues, qui est que pendant plus d'un siècle de psychologie, eh bien, on s'est surtout intéressé aux problèmes. Alors c'était nécessaire, c'était indispensable d'essayer de comprendre les troubles psychiques et essayer de les atténuer, de les modifier. Mais le problème, c'est que du coup, pendant un siècle, on s'est surtout intéressé à ce qui allait mal. Et la psychologie positive ne nie pas l'intérêt de tous ces travaux, de toutes ces connaissances, mais elle dit qu'il n'y a pas que ça chez l'être humain. Il y a d'autres aspects plus positifs au niveau de l'individu. Il y a l'optimisme, la motivation, au niveau des groupes, la coopération, l'empathie, toutes sortes de thèmes qui sont maintenant étudiés.
Bonjour Anaïs de Dieu.
Bonjour.
Vous êtes chargée d'études à l'association Reporters d'Espoir et coordinatrice de l'opération La France des Solutions qui s'est déroulée l'automne dernier. En deux mots, c'est quoi La France des Solutions ?
Alors La France des Solutions, c'est un événement qui permet de mettre en lumière toutes les initiatives constructives en matière d'économie, sociale et environnement. Des porteurs de projets qu'on ne voit pas assez dans les médias parce qu'on ne traite pas assez des solutions. Et pour une journée, on les met en avant et on convoque un maximum de médias pour qu'ils en parlent une bonne fois pour toutes.
Bonjour Alexandre Jost.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur du laboratoire d'idées La Fabrique Spinoza. Vous êtes l'un des experts éclairés de l'émission. C'est quoi La Fabrique Spinoza en deux mots ?
Bien, c'est un think tank, un laboratoire qui réfléchit sur le bonheur citoyen et s'interroge sur comment le remettre au centre des politiques publiques, aussi bien dans le champ éducatif que dans le champ de la démocratie, de l'entreprise.
Voilà. Jacques Lecomte, le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. C'est un titre provocateur au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle avec l'élimination façon puzzle des partis traditionnels et la présence au second tour de l'extrême droite. On ne sent pas un fort optimisme à travers le résultat du vote de dimanche dernier. Et puis c'est un titre qui peut choquer ceux qui estiment que le monde va plus mal que jamais.
Ah bah oui, forcément. C'est-à-dire que si on écoute que les nouvelles du matin, là tout à l'heure ce que j'entendais, ça fait plutôt froid dans le dos. C'est vrai, mais il faut pas oublier, tout à l'heure le petit passage qu'on entendait, c'est qu'il y a d'autres aspects dans le monde qui effectivement, il y a des améliorations. Si je prends par exemple la faim dans le monde, plus de 2 milliards de personnes qui sont sorties de la faim, de la famine en une vingtaine d'années. La pauvreté, plus d'un milliard. Donc ça, c'est quand même des chiffres massifs qu'il ne faut pas négliger. Quoi.
Alors, votre livre peut apparaître comme une provocation. Chômage de masse, guerre en Syrie, série d'attentats en 2015, crise européenne des migrants, réchauffement climatique, montée des tensions diplomatiques entre, par exemple, la Corée du Nord et l'Amérique de Donald Trump. Bon. Et le monde va mieux, paraît-il, selon votre livre.
Ben oui, c'est-à-dire que là, vous citez... Bon, je prends l'exemple des guerres, par exemple. Depuis, disons, 7 ans à peu près, depuis 2010, les guerres ont augmenté. C'est vrai. Et le nombre de morts par guerre, au fil des ans, a augmenté. Ça, c'est incontestable. Les médias nous en parlent. Mais ça fait suite à une diminution absolument drastique du nombre de guerres. Je parle même après la Seconde Guerre mondiale. Je ne compare même pas par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et tout simplement parce que, par exemple, pour ce thème, eh bien, les guerres internationales ont quasiment disparu de la planète. Il y a encore quelques sites sur la planète, mais très peu. Et maintenant, ce qui se passe, ce sont les guerres à l'intérieur des États, les guerres civiles, intra-étatiques. Et celles-là font beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts. Bien sûr, quelques milliers de morts par an, c'est à peu près le chiffre. C'est dramatique, mais ça n'a rien à voir avec les millions de morts qu'il y avait avant. Donc je précise, pour moi, dans mon livre, je dis trois choses. Le premier, c'est le message c'est le titre, c'est le message central, c'est de dire oui, le monde va beaucoup mieux.
Mais ça ne veut pas dire qu'il va bien.
Le deuxième message, c'est que je ne dis pas que le monde va bien. Je dis qu'il y a encore effectivement des points sombres. Et le troisième message, c'est eh bien comment résoudre ces points sombres? Tirons le profit des leçons des points positifs qui se sont améliorés pour les multiplier.
Alexandre Jost.
Moi, je pense que pour comprendre l'être humain, il faut se rappeler qu'on souffre d'un biais de confirmation qui est que on a tendance à rechercher les informations qui confortent notre vision du monde. Donc si je suis dans une situation où ma vie ne va pas très bien, ou si je suis plutôt d'un naturel pessimiste, alors je vais aller piocher les informations qui confortent cette vision du monde. J'ai reçu récemment un de ces emails, ces chaînes emails, envoyées par un certain nombre de personnes arrivées jusqu'à moi, avec relatant un rapport de l'OCDE sur l'état du monde. Et de ce rapport, uniquement les chiffres les plus négatifs avaient été extraits comme une démonstration éclatante que le monde allait mal. Donc, sans angélisme et en réalisant qu'il y a des gens pour qui la vie est difficile, je pense, interrogeons-nous sur où nous portons le regard quant à la manière dont le pays se porte et nous-mêmes.
Anaïs de Dieu.
Oui, justement, c'était la question qu'on se posait à Reporters d'Espoir et on était allé interroger de manière anonyme certains rédacteurs en chef pour savoir leur sensibilité par rapport au journalisme de solution. Alors, tous ont répondu très positivement. On leur a dit, mais alors, pourquoi vous avez du mal à pointer la lumière sur les bonnes initiatives? Et on nous a répondu que dans des temps de précarité économique et sociale, de troubles identitaires, dans des temps de crise, naturellement, les gens allaient s'orienter à savoir qui nous veut du mal, pourquoi, où et comment, plus que qui nous veut du bien et comment on va le faire, parce qu'il y aurait un petit côté un peu suspicieux de nous dire qui va nous faire du bien dans les temps aussi difficiles.
Jacques Lecomte, ce que montre votre livre, c'est que l'être humain est ainsi fait, il a besoin d'optimisme et d'espoir réaliste pour avancer. Vous avez d'ailleurs inventé un mot, l'opti-réalisme, mais beaucoup d'entre nous estiment que faire preuve d'optimisme en ce moment est complètement irréaliste, voire irresponsable.
Oui, alors ça, c'est une option. Moi, ce que je pense, ce qui est très réaliste, en tout cas, c'est que si on n'a pas un minimum d'espoir dans l'avenir, eh bien, rien ne va avancer positivement. Ça, c'est très, très réaliste. Et en fait, ce que je montre aussi, et ça, c'est très important, parce que vous dites opti-réalisme, optimiste-réaliste. Moi, je n'ai pas un optimisme béat. En revanche, beaucoup de travaux ont été faits qui montrent que le pessimisme, une vision pessimiste du monde, eh bien, pousse les gens, d'une part, à l'immobilisme. Qu'est-ce que je peux faire, moi, petit bonhomme, petit citoyen, face à l'ampleur des problèmes du monde? Et deuxième point, pousse à voter, à s'intéresser, à favoriser des leaders politiques autoritaires. Puisque je ne peux rien faire, eh bien, je vais faire appel à des sauveurs qui, eux, ont de la poigne et qui vont mettre les choses au point.
Alexandre Jost.
Je pense qu'il faut se souvenir de la place de la subjectivité. Si une expérience qui a été faite par Damasio, dans son livre Spinoza avait raison.
Antonio Damasio,
dans lequel une dame avec des troubles neurologiques se voit mettre une électrode qui stimule une certaine émotion, qui génère de la tristesse. Et ressentant cette tristesse, elle se met à avoir une vision déplorable de sa vie et se met à ressasser tout ce qui va mal dans sa vie. J'indique cette expérience pour nous rappeler que le filtre par lequel nous voyons le monde conditionne la manière dont nous examinons l'objectivité et fait qu'on va s'estimer content de notre pays ou pas. Et un dernier exemple, c'est Claudia Sénic, chercheuse en économie du bonheur à l'école d'économie de Paris, et elle nous dit quand même que si on prend une personne étrangère avec un certain niveau d'éducation, de vie, etc., on la fait venir en France, et bien 10 ans plus tard, cette personne a acquis le filtre culturel français. Et au lieu d'avoir le niveau de bonheur correspondant à sa condition objective de vie et le filtre de son pays d'origine, elle acquiert le filtre de culturel français et s'estime du coup moins heureuse que dans le pays où elle était auparavant.
Allez, vous pouvez poser vos questions, réagir au 01 45 24 7000. Il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Et puisque l'on se dit ce matin que le monde va mieux, vous vous intéressez ce matin au géant de la distribution, Carrefour, qui a fait de l'optimisme sa signature publicitaire.
J'optimisme.
J'optimisme.
C'est pas mal comme mot. Ça évoque quelque chose de super positif.
Ça veut dire optimiser et être optimiste.
L'espoir de moins dépenser.
C'est le Carrefour. C'est une bonne idée, ça.
Alors, j'optimisme en termes d'alimentation, c'est manger sain.
Manger équilibré, surtout, c'est important.
Et que ce soit bon pour eux, parce que j'ai des bons mangeurs à la maison.
Carrefour, j'optimisme.
C'est ce que j'avais envie de dire.
Extrait donc, voilà, de cette nouvelle publicité Carrefour qui installe donc cette signature J'optimisme. Pendant des années, souvenez-vous Ali, avec Carrefour, on positivait. Alors pourquoi passer à l'optimisme, me direz-vous ? Eh bien, parce que c'est plus commercial, en fait, hein, comme promesse. Parce que dans J'optimisme, et on l'a entendu d'ailleurs dans la publicité, on entend aussi J'optimise. J'optimise mes dépenses, donc j'économise et je gagne du pouvoir d'achat. Ce qui est devenu d'ailleurs le positionnement marketing commun des grandes marques de la distribution comme Auchan et son pays où la vie est moins chère ou Intermarché et sa promesse politique, hein, tous unis contre la vie chère.
Alors, mais dans ce nouveau slogan de Carrefour, il est bien sûr question d'optimisme.
Oui, c'est en tout cas ce que dit le mot, et le mot est même là pour ça, et même l'usage grammaticalement incorrect qui ne vous aura pas échappé, et qui consiste à utiliser un substantif comme un verbe, est là pour attirer l'attention sur l'optimisme comme valeur, permettant donc de réunir la marque et ses consommateurs. Carrefour s'appuie ici sur le sens commun de l'optimisme. Hein. L'optimiste, c'est celui qui voit le bon côté des choses, donc le verre à moitié plein, et qui se dit que le pire n'est jamais sûr, et que le meilleur peut donc tout autant arriver. Choisir Carrefour pour sa consommation courante reviendrait donc à faire le choix de l'optimisme et à exprimer son optimisme. Et si l'on appuie cette fois sur un sens plus philosophique de l'optimisme, hein, celui par exemple qui s'exprime à travers la philosophie des Lumières et de sa croyance dans la capacité qu'ont l'individu et la société à accéder au bonheur par leurs propres moyens, eh bien la promesse de Carrefour reviendrait ni plus ni moins à vouloir donner du sens à nos vies à travers nos habitudes de consommation.
Sauf que Thibaut de Saint-Maurice, le bonheur ne s'achète pas, jusqu'à preuve du contraire.
Oui, exactement, et donc c'est toute l'ambiguïté, voire la contradiction de cet usage commercial de l'optimisme. Si l'on remonte encore un petit peu dans l'histoire des idées, jusqu'au tout début du XVIIIe siècle, avec le philosophe Leibniz, eh bien l'optimisme c'est d'abord une certaine conception métaphysique du monde, selon laquelle le monde dans lequel nous vivons, c'est le meilleur des mondes possibles. Mais l'optimisme leibnizien n'est pas un optimisme béat, puisque tout son enjeu, c'est justement de nous apprendre à accepter le mal, à trouver une place pour le mal dans l'ordre général, comme à toute autre chose, et penser que tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Être optimiste dans ce sens-là, ce n'est donc pas se réjouir d'avoir un hypermarché dans lequel on peut faire de bonnes affaires, non. L'optimisme n'est pas un calcul, c'est une option métaphysique qui comprend que le mal présent dans le monde n'empêche pas ce monde d'être le meilleur des mondes et ne nous empêche pas, nous, d'être heureux malgré tout le mal qu'il y a dans ce monde-là. Alors on se moque souvent des optimistes en leur attribuant une naïveté ou une sorte d'aveuglement volontaire, comme le fait d'ailleurs Voltaire dans son conte philosophique intitulé justement « Candide ou l'optimisme ». Mais on a tort de se moquer des optimistes parce que la facilité n'est finalement pas de se moquer. Il faut du courage pour être optimiste. C'est une sorte de sport de combat quotidien qui accepte de donner du sens et de vivre heureux malgré tout, là où il serait si facile d'abandonner.
Petit commentaire, Alexandre Jost.
Ça me rappelle la citation d'Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et j'aime bien ce que propose le printemps de l'optimisme, ce mouvement très enthousiaste et qui nous rappelle que c'est justement en des temps difficiles qu'on a ce devoir humaniste d'être optimiste. Sans oublier que des gens souffrent et qu'il faut imaginer des solutions pour eux.
Jacques Lecomte.
Oui, tout à l'heure, Ali, vous disiez que parler de ça, c'était ramer à contre-courant. Des gens disent parfois, oui, c'est facile d'être optimiste, c'est une vision simple de la vie. Non, aujourd'hui, socialement, c'est ramer à contre-courant. Et merci d'avoir employé le mot courage, parce qu'il faut un certain courage.
Il n'y a pas de courage sans joie, d'ailleurs, dit Spinoza. C'est vrai. Et c'est une très jolie phrase, je trouve.
Thibaut de Saint-Maurice, rapidement, sur l'opti-réalisme défendu par Jacques Lecomte.
Mais moi, ça me plaît pas mal, parce que, en fait, c'est exactement, à mon sens, revenir au sens leibnizien, métaphysique de l'optimisme, puisque en réalité, être opti-réaliste, ça veut dire considérer la réalité dans une large perspective. On a pris l'exemple des guerres. Aujourd'hui, il y a une sorte de surcroît peut-être de mortalité à cause des guerres, mais comme on nous le dit, sur le temps plus long, quand on change son regard, quand on regarde dans une perspective historique, donc aussi rationnelle, eh bien on voit que les choses s'améliorent. Et on se disait, voilà, les journalistes tout à l'heure ne parlent que des trains qui arrivent en retard, c'est aussi parce qu'ils sont pris dans une actualité et qu'ils ne peuvent pas décaler le regard sur le long terme.
Anaïs de Dieu, oui, le reporter d'Espoir.
On a un sujet assez concret, la thématique écologique qui, il y a 15 ans, était traitée de manière très catastrophique par les médias. C'était apocalyptique, le réchauffement climatique, les ours polaires disparaissent. Et donc les gens se sentaient complètement impuissants et fatalistes par rapport à ce sujet et n'agissaient pas vraiment et s'intéressaient pas trop à l'écologie. À partir du moment où les médias ont commencé à montrer les initiatives qui se mettaient en place pour faire face au réchauffement climatique, les personnes s'y sont plus intéressées, on s'est intéressé au sujet, tout le monde, et on a pris des initiatives qu'on s'est appropriées pour faire face à ce réchauffement climatique.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques, c'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio, et c'est réalisé par Jérôme Boulet, 01 45 24 7000, pour poser toutes vos questions à Jacques Lecomte qui considère que le monde va beaucoup mieux qu'on ne le croit.
Ali Rebéi sur France Inter.
Je ne t'oublierai jamais, criai-je sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard. Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre que la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères, laissant à découvert la route. Parsemée d'ossements, j'essayais doucement de contenir les vents. La route. Et l'orage s'avançait, nous faisant chevalier de ces légions fantômes. J'ai trop longtemps marché dans les pas d'un cyclone. Les mirages éteignaient nos naissances sur la pierre de la soif. Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force. Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères. J'ai prononcé des mots que je ne connaissais pas, jamais si proche de moi que sur les chemins de l'errance.
Radio Elvis, la route.
quand le moment est venu,
grand bien vous fasse,
l'heure est arrivée.
Sur France Inter.
10h26, il paraît que le monde va mieux. C'est la thèse défendue par notre invité Jacques Lecomte. L'auteur du Monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Avec nous également Anaïs Dedieu de l'association Reporters d'Espoir et coordinatrice de l'opération La France des Solutions. Et avec nous également notre expert en bonheur citoyen Alexandre Jost, directeur du laboratoire d'idées La Fabrique Spinoza. Un courriel d'Aurélie de Paris pour vous Jacques Lecomte, qui nous dit « Je comprends qu'on puisse appliquer la psychologie positive à soi-même dans le cadre d'un développement personnel pour aller vers un mieux-être, de meilleures relations aux autres. Maintenant, comment cela peut-il être appliqué à la condition humaine en général et aux situations politiques dans le monde? Il y a tant de paramètres qui ne sont pas maîtrisables. Guerre, oppression, totalitarisme, catastrophe écologique. »
Oui, alors bien sûr qu'au niveau de nous qui sommes ici autour de cette table et puis d'Aurélie, eh bien, on ne peut pas avoir beaucoup d'influence sur les guerres dans le monde. Mais par exemple, la négociation, ça c'est un des thèmes étudiés par la psychologie positive, et vous comprenez bien que la négociation, la médiation entre responsables internationaux, eh bien ça peut avoir des effets positifs, bien mieux que des guerres où on essaye de détruire l'adversaire. Je prends un autre exemple, l'exemple de l'écologie. Avant, et encore maintenant, mais disons que les industriels et les militants environnementalistes étaient dans une guerre frontale. Ça l'est beaucoup moins maintenant, ils ont compris qu'il vaut mieux essayer de coopérer que de s'opposer. Les écolos ayant en quelque sorte pour tâche, et les scientifiques également, d'alerter, ils sont des lanceurs d'alerte sur les problèmes écologiques du monde, et c'est très nécessaire. Mais qui après peut résoudre les problèmes? Qui a les moyens techniques et financiers? Ce sont les industriels. Et bien lorsqu'ils se mettent autour de la table, et bien ça résout des problèmes. Ça résout des problèmes, par exemple, la couche d'ozone qui est en train de se reconstruire. C'est grâce à cette méthode de coopération qui est une valeur de la psychologie positive. Et puis, par exemple, le Rhin, qui était une poubelle à ciel ouvert, qui était le fleuve le plus pollué du monde, est aujourd'hui un des plus propres parce qu'il y a eu coopération entre industriels et environnementalistes.
Un autre courriel de SB qui nous dit « L'optimisme est une chose dangereuse, elle est un bandeau sur les yeux et empêche de voir la réalité. En revanche, je trouve totalement scandaleux les propos d'un de vos invités, donc vous, Jacques Lecomte, qui amalgame honteusement, avec un sophisme assez dégueulasse, il faut le dire, que les pessimistes favoriseraient le fascisme. Pour moi, les optimistes sont des fous dangereux et je les évite soigneusement. »
Oui, alors bon, je trouve que la critique est un peu sévère, mais c'est pas grave. Ce que moi je cite dans mon livre, ce sont pas des idées, ce sont des études scientifiques de sciences sociales, c'est tout. Après, il faut lire le livre.
Bonjour Colette.
Bonjour.
Vous appelez de Mazamet dans le Tarn.
Je suis un peu choquée de ce que je viens d'entendre, parce que moi je pense que les personnes optimistes, ce sont des gens gentils, souvent, des gens qui aident les autres, qui positives. Par contre, je pense que si les Français sont de moins en moins optimistes, c'est qu'ils regardent trop les messes de 13h et de 20h. Ces informations, on n'est pas fait pour ça, les êtres humains, pour prendre toute la misère du monde, les mauvaises images et autres. Moi, j'ai éliminé ça de ma vie depuis 12 ou 13 ans. Je ne regarde plus d'informations. Je sais même pas ce que c'est que BFM, je ne connais pas. Et j'écoute France Inter le matin, les infos, le soir un petit peu à 20h, et ça me suffit amplement.
Voilà. Et Marjorie va dans votre sens, un courriel de Marjorie qui nous dit « D'un naturel pessimiste, j'ai tendance à être ultra sensible aux mauvaises nouvelles et à voir tout en noir. » Anaïs Dedieu.
Oui, mais les médias sont en train de le comprendre que finalement, l'information anxiogène, à force, non seulement ça démobilise d'un point de vue sociétal, civique, politique, mais en plus, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs se désintéressent clairement de l'émission, ils vont voir ailleurs. Donc d'un point de vue business model, c'est pas bon non plus. Et à l'inverse, ils remarquent que l'information constructive, en tout cas quand on met en avant des solutions, accroche le lecteur, il y a une meilleure audience, il y a plus de taux de partage sur Internet, plus de clics sur les articles solutions et plus de temps de lecture. Donc à chaque fois, une audience qui augmente comparée aux informations qui sont uniquement sur le problème. Et là, il y a un business model qui commence à se mettre en place actuellement, c'est porteur.
Jacques Lecomte.
Oui, ben votre émission, elle est très écoutée, si vous avez bien suivi. Hein.
Merci beaucoup, Colette, de nous avoir appelé de Mazamet. Alors, le président Franklin Roosevelt disait que la seule chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Pour vous, Jacques Lecomte, les prophètes de malheur ont beaucoup trop voix au chapitre dans l'espace public, et les médias en particulier, on vient de le dire. Des prophètes de malheur qui, selon vous, nous induisent trop souvent en erreur. Et vous prenez par exemple la couverture médiatique de l'ouragan Katrina sur les côtes de la Louisiane en 2005 et qui avait provoqué d'importantes inondations à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et dans les semaines qui ont suivi, de nombreux journalistes ont décrit des vols, des pillages, des tirs d'armes à feu. Et tout cela n'était pas forcément vrai.
Non seulement c'était pas forcément vrai, mais la réalité a montré que c'était faux. C'est-à-dire que ça a été effectivement une plus grande catastrophe naturelle avec un impact sur les êtres humains, cet événement. Et pendant quelques temps, disons pour des raisons de sécurité, les journalistes n'avaient pas accès à la zone. Et donc, ils ont essentiellement tiré leur information d'une personne, qui était le chef de la police, qui s'appelait Ted Kompas, et qui a donné des descriptions effectivement apocalyptiques. Mmh. Et d'ailleurs, on a appelé cet événement « zone de guerre ». George Bush a fait venir 80 000 GI pour sécuriser la zone. Et en fait, une fois que... Et donc, les descriptions dans les médias du monde entier ont été absolument... Mais c'était des viols partout, des meurtres, enfin, en pagaille. Et puis après, ils ont été autorisés à se rendre sur les lieux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, toute l'information était inexacte. Il n'y a pas eu plus de morts, de meurtres que d'habitude.
Alexandre Josse.
Après, je pense qu'il y a un autre éclairage que nous apporte Mathieu Ricard dans son livre « Plaidoyer pour l'altruisme », explication anthropologique, c'est que l'être humain serait par nature bon et altruiste, et que la raison pour laquelle les médias couvrent plutôt ces faits négatifs, c'est la surprise, c'est l'ébahissement de tout d'un coup, ah, on est capable de ça, alors que on se voit plutôt par nature comme des êtres optimistes et positifs.
Analyse de Dieu.
Oui, tout à fait, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit des journaux comme Nice Matin ou l'Huffington Post ou West France, dès qu'ils commencent à montrer des solutions dans les contenus médiatiques, découvrent une audience qu'ils n'avaient pas jusqu'ici, parce que les gens se disent c'est possible, on peut le faire, et donc ça nous donne envie d'agir et d'en savoir plus sur le sujet. Ça, c'est très important pour les médias.
Alors, à propos de prophètes de malheur, Jacques Lecomte, dans votre ouvrage, vous démontez le mythe de l'effondrement en prenant appui sur l'ouvrage « Effondrement » du biologiste Jared Diamond, publié en 2005. Que nous raconte cet ouvrage « Effondrement » ?
Oui, bah écoutez, c'est un ouvrage qui a été un best-seller mondial, y compris en France, et qui montre, à partir d'exemples historiques, eh bien, que des sociétés qui ne sont pas respectueuses de la nature peuvent arriver à un effondrement total, et il cite plusieurs exemples. En soi, le thème me semble très important, très intéressant, et moi j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt. Sauf qu'après, j'ai regardé ce qui était dit par des scientifiques de ce livre. Et ça a été extrêmement contesté. En particulier, il y a un livre qui s'appelle Questioning Collapse et qui est donc remettre en question l'effondrement, donc ce livre, et qui a été fait par des historiens, des archéologues, des anthropologues, et qui ont pris chapitre par chapitre et qui ont démontré qu'il y avait beaucoup d'erreurs. En particulier, le plus connu de ces chapitres, c'est l'effondrement de l'île de Pâques. Vous savez, avec ces grandes statues, eh bien, les habitants de l'île de Pâques avaient coupé des arbres et fait des rouleaux pour faire avec les arbres pour amener les statues au bord de la mer. Et Jared Diamond dit que c'est ça qui a provoqué l'effondrement de la société par déforestation, enfin tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est faux, que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est en fait, il y a eu des rats et c'est pas eux qui ont provoqué directement. Bon, les rats, c'est aussi une importation humaine, mais quand même, c'est pas eux qui ont provoqué. Et il y a un côté un peu... dénigrement de populations telles que ces peuples, qui me gêne aussi dans ce livre. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le livre qui conteste, qui est beaucoup plus scientifique, eh bien, n'a pas été un best-seller. Et on a toujours cette idée que l'effondrement, eh bien, c'est une réalité, alors que c'est un mythe.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Belgique, près de Liège. Alors vous intéressez à la collapsologie, la discipline qui étudie les conditions de l'effondrement des sociétés industrielles complexes. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Jacques Lecomte.
Ah non, pas du tout, parce que la collapsologie a fait quand même pas mal de progrès, si je puis dire, depuis quelques années. Et les preuves scientifiques d'un effondrement global dans le courant du siècle s'accumulent. Alors je me demande si la position de M. Lecomte ne relèverait pas du déni ou de la dissonance cognitive. Parce qu'ignorer le négatif, c'est le meilleur moyen de lui laisser champ libre. Et au contraire, le reconnaître, c'est se mettre en mesure de le combattre. Alors il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hans Jonas qui disait qu'il vaut mieux accorder sa préférence à l'hypothèse pessimiste parce que c'est une question de prudence. Et un autre philosophe, Günther Anders, disait que la peur rationnelle ou la peur écologique, comme il disait, était bonne conseillère, contrairement à ce qu'on dit, et qu'il était même un devoir moral de la faire naître chez ses concitoyens.
C'est très intéressant
moi,
ce que nous dit Bernard.
Et en tant que militant de la décroissance, le pessimisme me pousse à agir.
C'est très intéressant ce que nous dit Bernard, tout de même, oui. Jacques Lecomte.
Oui, alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux avis contraires. Simplement, si vous lisez les livres des collapsologues, et j'en connais un très bien qui s'appelle
Spécialiste de l'effondrement des sociétés industrielles
c'est
complexes.
Et moi, j'ai discuté avec Pablo Servigne, qui est un des fondateurs de la collapsologie, et dans son livre, il a lu que ce qui allait dans son sens, et il me l'a dit. Mmh. Et moi, dans mon livre, je montre ce qui va dans le sens positif et ce qui va aussi dans le sens négatif. Et la réduction de la dissonance cognitive, c'est ne pas voir ce qui va à l'envers de ses propres idées, ce que moi, j'ai refusé de faire. J'ai essayé de voir ce qui n'allait pas dans le sens de mes idées.
Alexandre Jost.
Moi, je pense qu'on a des moyens d'objectiver les choses et on a quand même des instituts internationaux qui regardent comment se situe la France et que ce soit l'OCDE avec l'indice du mieux vivre, que ce soit le World Happiness Index.
Ça veut dire
tout,
quoi
tout cet indice mondial du bonheur édité par des universitaires. Chaque fois, la France se situe aux alentours de la 20e, parfois à la 30e position. Donc, est-ce qu'on va s'auto-flageller en plus en se disant que sur 200 pays, on est seulement en 20e position? Non, c'est... Voilà.
Analyse de Dieu.
Oui, et puis par rapport à la peur rationnelle, on a un sujet récent comme le traitement médiatique de la Syrie, où à un moment donné, on s'est demandé pourquoi un sujet de guerre qui était autant traité sur les réseaux sociaux, on a des images absolument de partout qui sont atroces, comment ça se fait qu'à force de jouer sur l'empathie, on arrive à une forme d'immobilisme où tout le monde se sent impuissant et on se dit mais comment faire pour agir alors que le sujet est traité comme jamais. Donc jouer sur l'empathie, c'est pas forcément une peur très productive.
Merci beaucoup Bernard de nous avoir appelé de Belgique, 01 45 24 7000, questions, réactions.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Bye.
Donna Summer, Hot Stuff, que l'on peut retrouver dans le film The Full Monty, que vous adorez, Alice.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h41, il paraît que le monde va mieux, c'est ce qu'affirme notre invité, Jacques Lecomte, l'un de nos invités, auteur du Monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez, avec nous également Anaïs De Dieu, qui aime beaucoup Donna Summer et Hot Stuff, mais qui est par ailleurs membre de l'association Reporters d'Espoir et coordinatrice de l'opération La France des Solutions, et avec nous notre expert en bonheur citoyen, Alexandre Jost, directeur du laboratoire d'idées La Fabrique Spinoza.
Et qui aime bien Donna Summer aussi.
Oui, je sens bien aussi. Jacques Lecomte, vous dénoncez certains prophètes de malheur dans votre ouvrage. Des prophètes de malheur qui ont la fâcheuse tendance, selon vous, à nous démobiliser. Quels sont les effets de leur pessimisme sur le plan cognitif? Ça rend passif, ça pousse à quoi, un sentiment d'impuissance?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pas mal de travaux ont montré que, effectivement, quand on est envahi de mauvaises nouvelles, et surtout de mauvaises nouvelles à une échelle très importante, très vaste, eh bien, ça nous, on a le sentiment d'être impuissant. Et alors même à un niveau plus petit, par exemple, beaucoup de travaux ont été faits sur, par exemple, la santé publique, les campagnes de santé publique qui montrent que des catastrophes hein, de type, par exemple, les poumons pourris et tout ça. Eh bien, ça a tendance à nous rendre un sentiment que, enfin, les fumeurs ont l'impression qu'ils peuvent pas faire quelque chose, mais non seulement ça, ils ont tendance à cause de ça à fumer plus. Et on s'est rendu compte que on a à peu près les mêmes choses avec l'environnement. Plus on a des messages catastrophiques, plus on les refuse. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. En augmentant les informations sur le réchauffement climatique, ça augmente le nombre de climato-sceptiques. Il faut faire attention à ce qu'on fait quand même.
Anaïs De Dieu, chez Reporters d'Espoir, vous battez en brèche ce pessimisme ambiant avec l'opération La France des Solutions.
Oui, tout à fait.
Un exemple, par exemple.
Alors, La France des Solutions, alors par exemple, nous on aime bien montrer les industries qui arrivent à se relever. Je peux prendre Armor qui en 2008 était dans une situation assez catastrophique où à la télé on voyait des images des ouvriers pas contents qui faisaient brûler les pneus. On a bien aimé montrer qu'Hubert de Boisredon qui a repris cette industrie a dit bon ben moi je vais construire un management sur la confiance, c'est-à-dire que je vais pas vraiment m'intéresser aux objectifs chiffrés tous les trimestres, je vais aller sur du long terme, je vais créer des investissements dans la recherche et l'innovation, ça veut dire que je vais demander aux actionnaires de financer 50 millions, ça va pas être très productif à court terme, mais à long terme je vous assure, faites-moi confiance, on va réussir à redresser cette industrie. Et ça c'est l'exemple type que si on s'intéresse à l'information et aux résultats sur du court terme, oui effectivement investir dans l'innovation et la recherche c'est pas très productif. Mais si on est sur du long terme, à ce moment-là, les solutions prennent plus de sens. Donc les solutions, elles se traitent sur du long terme, pas sur du court terme.
Et c'est un exemple que vous connaissez bien, hein, Jacques Lecomte, oui. Vous l'évoquez dans votre précédent ouvrage.
Oui, et en plus, ce qui est très intéressant, ouais. C'est que l'investissement qu'il a fait, c'est surtout à vocation environnementale.
Tout à fait, il recycle.
Il veut faire de cette entreprise une entreprise internationale, industrielle, à vocation environnementale.
Alors Jacques Lecomte, vous affirmez que le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. On va prendre quelques exemples. Depuis 1990, l'extrême pauvreté a fortement reculé partout dans le monde. Selon les Nations Unies, en 1990, le taux d'extrême pauvreté était de 47% dans les pays en voie de développement et de 14% en 2015.
Voilà, c'est ça, vous avez tout dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à mes sources. Dans mon livre, je ne cite que des sources très officielles. Là, vous citez l'ONU, il y a des choses sur l'UNICEF, l'OMS, la FAO, enfin, voilà. Et voilà, c'est un chiffre, effectivement, qui vient de l'ONU.
Et quels sont les facteurs de la chute vertigineuse de cette extrême pauvreté?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient à tous les niveaux. Effectivement, en 2000, l'ONU a lancé une grande campagne qu'ils ont appelée l'objectif du millénaire pour le développement, dont on a eu les résultats en 2015. Et ça a donc impliqué des chefs d'État. Ça a impliqué des associations qui font le relais sur le terrain. Et puis, au dernier endroit, disons ce qu'on appelle en anglais le last mile, c'est-à-dire le dernier kilomètre, notamment pour la pauvreté ou pour la faim, eh bien c'est des professionnels, des acteurs communautaires de terrain qui vont dans chaque famille, qui vont dans chaque village essayer de résoudre les problèmes d'hygiène par exemple ou de pauvreté.
Mais attention, dans l'Afrique subsaharienne, plus de 40% de ces sociétés vivent encore dans une extrême pauvreté en 2015. Et puis en France, hein, selon l'INSEE, les inégalités se sont accentuées en 2015. un Français sur 7 vit sous le seuil de pauvreté. Alexandre Jost.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce débat, c'est qu'en fait, on est en train de triturer une idée qui est, est-ce qu'on peut examiner objectivement ou subjectivement un état de fait ? Je vais prendre l'exemple de la sécurité. Si on regarde les passages à l'acte, les agressions, alors on a des chiffres qui peuvent inquiéter. Si on regarde le sentiment de sécurité, alors, c'est-à-dire la version subjective, alors le ressenti des gens est différent. Et moi, je pense qu'il faut aussi, ce qu'on a fait à la Fabrique Spinoza, on a créé un PIB du bonheur où on a interrogé tous les trimestres 1000 personnes sur comment ils se sentent. Et on voit que les Français estiment être à 6,0 sur 10 en termes de bonheur global. Et ça, c'est intéressant. Et si on zoome un petit peu, on voit que 80% d'entre eux sont satisfaits de leur logement, de leur environnement de vie, de leurs relations, qu'ils ont des gens sur qui compter. Tout ça pour dire que oui, il ne faut pas négliger les inégalités objectives, il faut travailler dessus, mais il faut aussi avoir un regard et mise en abîme positif sur les choses, parce que les Français se sentent plutôt bien de leur propre déclaration.
Alors Jacques Lecomte, justement à propos de criminalité, vous affirmez dans votre ouvrage que la criminalité chute de façon spectaculaire dans la plupart des pays. Par exemple en région parisienne, le nombre d'homicides volontaires a baissé de 65% en 20 ans entre 1994 et 2013. Vos sources, ce sont les homicides volontaires diagnostiqués par l'Institut médico-légal de Paris.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc, encore une fois, chiffre officiel qu'on ne peut absolument pas trafiquer. Par ailleurs, il faut savoir que dans les enquêtes d'opinion publique, les gens pensent que la criminalité a augmenté. Voilà. Donc, la criminalité diminue, mais on pense qu'elle a augmenté. Mais par ailleurs, troisième élément, la part des faits divers, donc de la criminalité, a très fortement augmenté dans les médias, que ça soit les médias télévisés, que ça soit les médias journaux ou la radio. Donc effectivement, plus on parle des crimes, même s'il y en a moins, plus les gens pensent qu'il y en a beaucoup.
De façon plus générale, les pays européens connaissent une baisse quasi régulière du taux d'homicide depuis le Moyen-Âge. Oui. Le taux est passé de 20,2 pour 100 000 habitants en 1500-1550 à 0,7 pour 100 000 dans la période 2000-2012. Alors comment expliquer cette immense décalage entre la réalité et notre imagination. Nous n'avons jamais été autant en sécurité, mais nous sommes nombreux à estimer que nos sociétés sont de plus en plus violentes. Comment expliquer ce paradoxe ?
Oui, ben c'est ça. Par exemple, dans les médias, il y a un meurtre pour 50 personnes qui apparaissent dans les fictions télévisées, par exemple, alors que dans la réalité, c'est un mort pour des milliers. C'est-à-dire que les médias nous renvoient une vision du monde bien plus noire que la réalité.
Il y a un élément complémentaire, c'est je pense que ça nous choque de plus en plus. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que le seuil de tolérance en termes de morale, de valeur, de probité, de crime, etc., c'est énormément à baisser. Et ce que l'on voit à Fabrique Spinoza, c'est aussi une révolte. C'est une tendance objective qui va à la baisse, mais ensuite une révolte, et ce qui est le signal d'une envie d'agir, de muter et de s'engager finalement.
Les attaques terroristes depuis 2012 en France accentuent évidemment ce sentiment d'insécurité. En 2015, les attentats ont tué 147 personnes. C'est devenu l'une des préoccupations majeures des Français. Vous le disiez, Alexandre Jost, la gravité de ce type d'événement traumatise les Français à juste titre. Et pourtant, Jacques Lecomte, vous écrivez une chose qui peut paraître choquante pour de nombreux Français. Les décès par terrorisme sont très peu nombreux par rapport à d'autres causes de mort. Par exemple, les accidents de la route qui ont tué 3616 personnes en 2015. Le tabac qui entraîne 73 000 morts par an. Je vais me faire l'avocat du diable, Jacques Lecomte. Comment on peut comparer l'incomparable dans votre ouvrage ? Et ça peut choquer quand même de faire ce genre de comparaison.
Oui, c'est vrai, mais enfin, il faut quand même, justement par rapport à ces chiffres, par exemple, les fabricants de tabac tuent chaque année bien plus que 500 fois plus que l'année la plus meurtrière en France. Maintenant, ça peut nous choquer cette présentation, mais en fait, ce qui nous choque dans le terrorisme, c'est pas tellement le nom, parce que c'est effectivement il y a beaucoup moins de morts par terrorisme que par toutes sortes d'autres morts. C'est le côté émotionnel, et ça, effectivement, c'est problématique parce que ça nous semble inacceptable, et c'est inacceptable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est exactement ce que les terroristes recherchent. Ce que les terroristes recherchent, c'est l'impact émotionnel. Il y a des écrits de Ben Laden qui dit « Il vaut mieux tuer 20 personnes dans un café que de faire un attentat contre un État, contre des forces militaires, parce que ça aura beaucoup plus d'impact. Et donc, il ne faut pas rentrer...
L'assassinat la semaine dernière du policier sur les Champs-Élysées a eu un impact fort dans l'opinion.
Tout à fait, mais je le comprends. Alors, si vous voulez, il faut en fait que les médias et les responsables politiques aient une juste mesure. Il est important d'en parler, il est important d'être choqué, mais il ne faut pas se servir, notamment par les politiques, de ça comme argument pour instaurer plus de sécurité.
Et vous citez l'Américain John Mueller, professeur de sciences politiques à l'Université d'État de l'Ohio, qui nous dit que les réactions aux attentats constituent une menace plus grande que les attentats eux-mêmes. Alexandre Jost.
Moi, je rebondis sur le mot politique dans la phrase avant. Je pense qu'un exemple de bascule de quelque chose qui va mal à quelque chose qui va bien, c'est on a réalisé un sondage sur un autre mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire ou le jugement moyen, où on a demandé aux Français d'évaluer les candidats, chacun d'entre eux, entre 0 et 10. Et on s'aperçoit via ces notes que la totalité d'entre eux ont des notes inférieures à 5, et que les deux finalistes au deuxième tour ont des taux de rejet, c'est-à-dire des notes entre 0 et 5, et bien de 42% pour Emmanuel Macron et de 55% pour Marine Le Pen. Ça, c'est une indication que tout ne va pas si bien que ça. Et donc nous, ce qu'on lance empreint d'optimisme, c'est un appel à un Grenelle de la démocratie, en lien avec le think tank Sinopia, qui est une idée très simple, c'est comment est-ce qu'on peut se redonner une force démocratique et reposer le débat pour que l'optimisme arrive dans le champ politique. C'est quoi les choses auxquelles on croit? Est-ce qu'on croit à des assemblées citoyennes? Est-ce qu'on croit à une constituante? Est-ce qu'on croit à plus d'éthique dans la politique? Et tout ça pour dire, le lien avec notre sujet, c'est que chacun d'entre nous est susceptible de redessiner avec, comme le colibri avec sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie dans la forêt, eh bien, notre système démocratique, si on arrive à faire accepter aux gagnants de l'élection, eh bien, qu'il faut redessiner le contour de notre démocratie.
La parabole du colibri, vous avez bien lu Pierre Rabhi, vous.
Oui, qu'on admire beaucoup.
Anaïs de Dieu.
Oui, je vais juste rajouter un dernier mot. Quand vous parlez du sentiment d'insécurité qui était différent du constat, récemment, j'ai lu un rapport de médiation de France Télévisions, France 3, je crois, où les téléspectateurs se plaignaient de la manière dont on traitait l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est considérée comme un pays, alors que c'en est 53, je crois. L'Afrique, c'est corruption et famine, et quand on en parle, c'est des guerres. Alors qu'il y a des mouvements de jeunesse et citoyens très importants. Et les téléspectateurs se plaignaient de jamais entendre parler positivement de l'Afrique et d'entendre parler de l'Afrique comme d'un seul pays. Et c'était terrible.
Croyez-le ou non, il y a eu quelques bonnes nouvelles en 2016. Au rayon des maladies en voie de disparition s'ajoute aussi la rougeole. Elle continue de tuer plus de 100 000 personnes par an, mais à force de campagne de vaccination, elle a totalement disparu du continent américain. Une autre chose a disparu en Amérique, la guerre. L'accord de paix signé entre les rebelles des FARC et le gouvernement colombien débarrasse le continent de toute forme de conflit impliquant une armée nationale. De l'autre côté de la planète, en Birmanie, l'armée aussi est en retrait. Après 50 ans de dictature militaire, le pays est aujourd'hui dirigé par un président élu démocratiquement.
Quelques bonnes nouvelles issues d'un reportage diffusé sur lemonde.fr. Jacques Lecomte, contrairement à une idée reçue que vous évoquez dans votre ouvrage, l'humanité est en meilleure santé. On assiste par exemple à une réduction massive des mortalités maternelles et infantiles.
Oui.
Divisée par deux entre 1990 et 2015.
Voilà, divisé par deux, c'est quand même énorme. Ça, c'est la mortalité maternelle infantile, mais on peut aussi parler du paludisme, la tuberculose, le sida, toutes des maladies qui sont en régression radicale. Et on pense, on espère que le paludisme pourrait disparaître, ce qui était complètement inenvisageable il y a quelques années. Donc, et ça, encore une fois, comment ça s'est fait? Eh bien, il y a au plus haut, il y a des responsables politiques de l'OMS et puis des pays, mais après, jusqu'au plus bas, eh bien, des responsables qui vont sur le terrain, qui vont donner des règles d'hygiène aux familles.
C'est rigolo parce que dans notre débat, moi, il y a quelque chose qui vient de me percuter, c'est qu'en fait, on peut avoir l'illusion, le sentiment d'un dialogue de sourds entre des gens qui disent « mais regardez, tout ça, ça va bien », et d'autres qui répondent « mais tout ça, ça va mal ». Et moi, ma proposition par rapport à ça, c'est de se constituer en tant que nation un débat national qui nous permet de dire « voilà les choses qui comptent vraiment pour nous », qu'on les mesure en termes objectifs et qu'on rajoute des éléments subjectifs, de telle sorte à ce qu'il y a un socle commun pour un diagnostic. Sinon, c'est tu me dis rose, je te réponds marron, et finalement, les deux ont raison.
Oui, mais moi je précise, j'entends bien, mais je précise que moi je ne dis pas que tout va bien. Mmh. Je tiens à l'affirmer. Oui. Dans mon livre, je dis qu'il y a encore des gros progrès à bien faire sûr. Et qu'il est nécessaire de les faire.
Bonjour Francis. Francis, êtes-vous là ? Non, vous n'êtes pas là. Francis,
un pessimiste qui se tait.
j'aimerais qu'on termine peut-être, Jacques Lecomte, avec la fin que vous évoquez dans votre ouvrage. Elle est pas encore quasiment éradiquée, mais on a des raisons de, voilà, d'espérer.
Oui, c'est ça. Alors que la population dans le monde a augmenté, eh bien, la faim a diminué au point qu'au rythme actuel de diminution, eh bien, on peut pour la première fois envisager de façon assez logique l'élimination de la faim sur Terre en 2030.
Au cours du dernier quart de siècle, 2 milliards de personnes ont été libérées d'une probable sous-alimentation et les enfants restent les premiers bénéficiaires de cette baisse de la faim. Gros bémol, il reste toutefois 800 millions de personnes
absolument.
Souffrant de la famine à travers le monde. Alexandre Jost.
Ali, toujours dans cette idée pour savoir comment on met en avant la manière dont les choses se passent réellement. Les pays scandinaves, j'ai oublié lequel d'entre eux, mais l'un des pays scandinaves sur les 10 dernières années a vu son score de bonheur déclaré par les habitants du pays augmenter de 1 point sur 10. Lorsqu'il y a eu l'effondrement du bloc communiste, le niveau de bonheur dans cette partie du monde s'est effondré également de déclaré par les gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des impacts macro qui se jouent au niveau des pays et que ceux-ci peuvent se mesurer et qu'on n'est pas face que à des effondrements de tendance en termes d'épanouissement. On voit aussi des pays qui, petit à petit, en installant de plus grandes solidarités, en imaginant d'autres modèles de société, eh bien, se constituent en blocs de population plus heureux.
Un mot de conclusion, Naïs
oui,
Dadieu.
Juste, on mesure la réalité du monde grâce à vous, grâce aux journalistes. Et la réalité, il faut qu'elle soit représentée de manière exhaustive dans sa complexité. Donc, c'est pas noir ou c'est pas blanc, c'est gris. Et donc, nous, juste, ce qu'on soutient, c'est on fait une investigation sur le problème. C'est évident, on peut pas nier le problème, mais il faut faire une investigation sur la solution. C'est complémentaire et c'est nécessaire.
Merci beaucoup, Jacques Lecomte. Le monde va beaucoup mieux que vous nous le croyez. C'est publié aux arènes. Merci à Naïs Dadieu. Je renvoie au site Reporter d'Espoir. Merci. Merci Alexandre Jost. Je renvoie au site de la Fabrique Spinoza. Un événement important pour votre laboratoire d'idées, les 6, 7 et 8 juillet prochains à Paris.
Avec l'Université du Bonheur au Travail, 3 jours de formation pour apprendre des outils pour aller mieux en entreprise et transformer son organisation pour l'épanouissement des collaborateurs.
Merci beaucoup. Demain, nous poursuivons dans la veine optimiste. Nos invités nous conseilleront quelques livres qui rendent optimistes. De Cioran à Simenon, de la BD Calvin et Hobbes au livre de cuisine de François-Régis Gaudry. Des livres qui rendent optimistes. Donc, et oui, vous verrez que même Cioran peut donner envie de dire un grand oui à la vie. Et vous, quels sont les livres qui vous rendent optimistes? 01 45 24 7000 demain à partir de 9h et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. À la technique ce matin, Michel Bézikian et Kevin Pelot. La programmation musicale était signée Muriel Pérez, à suivre Nagui.